Voici une question qui intéressera sûrement les voyageurs. Est-il possible de marcher où Jésus a marché lui-même quand on visite Jérusalem? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse surprenante aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je crois qu'on va tous être bénis par la merveilleuse parole de Dieu une fois de plus aujourd'hui. Écoutez bien les questions qu'on va poser au livre d'Ésaïe. Elles sont peut-être vos questions. Est-ce que Dieu rétablira la justice un jour? Est-ce que Dieu éclaire les paresseux? Est-il possible de souffrir de sous-alimentation spirituelle? Quelle est la solution de Dieu concernant nos problèmes avec le péché? Est-ce que chaque individu détermine la sévérité du jugement qui le frappera? Est-il possible de marcher où Jésus a marché lui-même quand on visite Jérusalem? Restez là, le pasteur Régent Joly est prêt à répondre à toutes nos questions. Et on sait qu'on va entendre la vérité, puisque cet enseignement vient de la Bible, de la parole de Dieu. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien recevoir cette parole. Prions. Oui, Seigneur, on ne veut pas penser à notre quotidien présentement. On désire que nos cœurs soient bien disposés. Et c'est toi seul qui peux le faire par ton Esprit Saint qui est en nous. Dispose nos cœurs. On veut entendre ta voix, on veut communier avec toi. On veut que tu nous dises ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Que tu nous enseignes ce que tu désires nous enseigner aujourd'hui. On t'écoute, Seigneur. Parle-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que l'épée de l'Éternel, c'est sa parole. Il a créé le monde et tout ce qu'il habite par sa parole. Il détruira le Léviathan, le serpent qui représente le diable, par sa parole. Nous avons expliqué que là où règne le Seigneur Jésus, c'est l'abondance et la joie. Cela sera certainement pendant le millénium alors que Jésus-Christ veillera personnellement sur les siens. Il gardera lui-même sa vigne, qui est Israël. Dieu ne cessera jamais de manifester sa miséricorde et sa grâce. Dans le millénium, les ennemis de Dieu, qui se tourneront vers lui, goûteront sa miséricorde. Nous avons souligné encore une fois que Dieu est plus sévère avec son peuple parce que celui-ci a reçu plus de lumière. Cependant, Dieu ne détruit jamais complètement son peuple comme il l'a fait avec d'autres nations. Nous avons vu la prophétie qui annonce la captivité d'Éphraïm et la destruction de Samarie. Si Dieu a écrasé Éphraïm, qui a laissé ses richesses le détourner de Dieu, nous ne nous en tirerons pas si nous en faisons autant individuellement. Dieu nous appelle à revenir à lui, à le reprendre comme Dieu personnel. Maintenant, le prophète nous amène dans un avenir lointain, en ce jour, réfère au jour de l'Éternel. Ce jour commence avec la grande tribulation et se poursuit dans le millénium. Débutons notre lecture d'Ésaïe, chapitre 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Ce verset s'applique au futur règne millénaire qui viendra un jour. L'orgueil a été la cause de la chute d'Éphraïm. La nation était couronnée d'orgueil. Cependant, lorsque Dieu les ramènera dans le pays, l'Éternel, le Dieu de gloire, sera leur couronne. Lisons les versets 6 et 7. « Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. » Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont égarés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Jésus-Christ fera régner un esprit de justice. Le Seigneur Jésus rétablira la justice. Il donnera un esprit de justice à ceux qui jugeront le peuple. Cependant, nous avons la description de ce qui se passa en Éphraïm lorsque Dieu envoyait la nation en captivité. Nous connaissons tous des personnes en affaires qui ont fait faillite ou perdu un excellent emploi à cause de la boisson ou du péché. De nos jours, des personnes voient leur carrière ruinée parce qu'elles sont dépendantes du porno sur Internet. Plutôt que de travailler, ces personnes visitent des sites porno et éventuellement perdent leur emploi parce qu'elles ne sont plus productives. L'alcool, la toxicomanie ou d'autres péchés finissent par abrutir une personne. Elle n'est plus aussi clairvoyante en affaires. Elle perd son flair pour une bonne affaire. Le péché a toujours un effet néfaste à long terme. Un chrétien qui a travaillé dans le monde des affaires a confirmé cela. Il a connu un homme qui s'est mis à boire, qui a manqué de jugement avec certains investissements, et les pourvoyeurs de fonds ont donc cessé de prêter de l'argent à cet homme. Un homme qui a délaissé la boisson après sa conversion a pris quelques années avant de retrouver toutes ses facultés mentales, tellement l'alcool l'avait abruti. Jésus-Christ fera régner un esprit de justice, mais les sacrificateurs et les prophètes d'Éphraïm étaient abrutis par l'alcool. Verset 13 d'Ésaïe 28. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Dieu n'éclaire pas une âme paresseuse et léthargique. L'enseignement de la parole est un travail lent qui demande de la patience et de la persévérance. C'est ainsi que nous maîtrisons les vérités spirituelles. Dieu n'éclaire pas ou n'illumine pas soudainement une âme paresseuse et léthargique. Lorsque les gens sombrent dans l'apostasie, il devient de plus en plus difficile de leur transmettre des vérités spirituelles. De nombreux chrétiens ne sont pas heureux de leur état spirituel. En fait, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils entendent parler d'un cours de 2 semaines qui va résoudre tous leurs problèmes. Ils vont apprendre à régler leurs problèmes maritaux, à s'entendre avec leur belle-mère, à bien élever leurs enfants et à devenir des employés exemplaires. Mes amis, permettez que je vous dise honnêtement, ce n'est pas un petit cours ou une expérience émotionnelle forte qui va régler vos problèmes. Il n'y a pas de raccourci pour atteindre une marche chrétienne satisfaisante qui comble notre vie. Il n'y a qu'une seule façon de grandir spirituellement, et elle est si simple que j'hésite à la mentionner. C'est l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Le peuple avait tombé. Il était dans un état spirituel lamentable. Les gens ne se nourrissaient pas de la parole de Dieu, à part que 2 ou 2 brides à la fois. Ils étudiaient un peu, ici, un peu là, à l'occasion. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état de nos jours. Ce n'est pas qu'ils sont plus faibles que les autres. Ils ne se nourrissent pas vraiment de la parole de Dieu. Cela ne semble pas l'idée la plus épatante, mais il faut prendre le temps de nous arrêter quotidiennement et de méditer la parole de Dieu. Il faut persévérer dans cette habitude et étudier la parole systématiquement. Souffrez-vous de sous-alimentation spirituelle? Certains chrétiens se contentent d'une pensée quotidienne provenant d'un calendrier, d'un livre de méditation ou encore, ils se sont abonnés à une pensée du jour par Internet. Cela ne suffit pas. Nous agissons sur le plan spirituel comme la personne à qui l'on a servi un déjeuner copieux. Elle ne se contente que du verre du jus d'orange. Dieu nous a donné un déjeuner copieux, la Bible. La pensée quotidienne est un excellent verre de jus, cependant. Ne nous en contentons pas. Goûtons au reste du repas copieux. Verset 14 d'Ésaïe 28. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Le jugement qui frappe Éphraïm dans le nord devrait être un avertissement à Juda dans le sud. Éphraïm est une leçon pour Jérusalem, et Jérusalem est une leçon pour nous, et la parole de Dieu s'adresse à nous tous. Verset 15. Vous dites, Nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Quelle est cette alliance avec la mort et le séjour des morts? Daniel nous parle d'une alliance entre Israël et l'Antéchrist, le prince qui vient, l'homme impie, le roi ambitieux, la bête de la mer, la bête de la terre, celui qui est contrôlé par Satan. Daniel chapitre 9, verset 27. Revenons à Ésaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quelle est la solution de Dieu à nos problèmes avec le péché? Quelle est la réponse aux principes mensongers selon lesquels les gens marchent et la séduction qui provient de l'extérieur? Les deux augmenteront jusqu'à la grande tribulation. Dieu nous a déjà donné sa solution. C'est un fondement sûr, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui croit en ce fondement n'a pas besoin de se hâter ou de s'énerver. Il peut se reposer en s'appuyant sur Dieu. L'apôtre Pierre nous a dit que ce fondement est Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, « Je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. » Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Simon Pierre identifie clairement le fondement qui est Jésus-Christ. Revenons à Ésaïe 28, lisons le verset 17. « Je ferai de la droiture une règle, et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Le jugement viendra graduellement, je pense que cela se fait ici aujourd'hui. Parfois, il vient soudainement. Cependant, le jugement graduel est pire que le jugement soudain. Le processus est tellement lent que les gens ne le perçoivent pas. Versets 18 à 20. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Chaque matin, le jugement passera. Les gens ne pourront même pas se cacher dans leur lit. Lentement, mais sûrement, le jugement viendra. Il a frappé Judas environ 100 ans plus tard. Le reste de ce chapitre nous rappelle la parabole du blé de l'ivraie. Il parle des différentes sortes de grains et des façons de le fouler. Versets 24 et 25. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords. L'agnel et le cubain sont des petits grains qui servent de condiment. Le froment, c'est du blé, et l'épeautre, une variété de blé. Versets 27 et 28. On ne foule pas l'agnel avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat l'agnel avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Nous déterminons notre propre jugement. Chaque variété de grain est traitée d'une façon différente. La récolte est une image du jugement. Chaque individu ou chaque nation détermine la sévérité du jugement qui la frappera. Un grain dur sera frappé beaucoup plus fort qu'un grain mou. J'ai rencontré des personnes qui ont été frappées durement afin qu'elles décident d'abandonner leur péché. Un a dit avoir perdu sa femme et ses deux enfants avant de se réveiller. « Dieu a dû me frapper à 3 reprises, a-t-il expliqué, car j'étais un pécheur endurci. » Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 30, nous lisons ceci dans la parabole du blé de l'ivraie. « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Au verset 41, le Seigneur ajoute, « Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Nous déterminons notre propre jugement. Si seulement nous écoutions le Seigneur Jésus, il nous placerait avec le blé et il nous épargnerait son jugement. Les prophéties du chapitre 29 d'Ésaïe sont uniquement sur Jérusalem, mais s'étendent de l'invasion de Sennachérib, passent par le jour où les nations fouleront la ville et portent jusqu'au dernier envahisseur. Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 7, qui détruira Jérusalem. Le tout se terminera par le retour de Jésus-Christ et l'établissement de son royaume alors que son pied foulera le mont des Oliviers. Il sera utile et instructif de comparer ce chapitre au discours de Jésus-Christ, que nous retrouvons dans les Évangiles. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 37, au chapitre 24, verset 2, et l'Évangile selon Luc, chapitre 13, verset 34 et 35, et toujours selon Luc, chapitre 21, verset 20 à 24. Débutons la lecture d'Ésaïe, chapitre 29, verset 1. « Malheur à Ariel !» Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Ariel signifie « lion de Dieu ». C'est un nom donné à la ville de Jérusalem. Nous retrouvons le mot Ariel dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Katséel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Le mot Ariel est traduit par « lion ». Dans Ézéchiel, chapitre 43, verset 16, le même mot est traduit « autel », et dans certaines circonstances, il pourrait signifier « l'autel de Dieu ». Les deux sens sont appropriés pour désigner Jérusalem. Ariel est aussi identifié comme la ville où a vécu David. Le lion est le symbole de cette famille. Le Seigneur Jésus est appelé « le lion de la tribu de Juda ». Apocalypse 5, verset 5. De même, le temple avait été construit à Jérusalem et l'autel se trouvait dans le temple. Nous sommes devant une prophétie remarquable au sujet de Jérusalem. La prophétie a commencé à s'accomplir au temps d'Ésaïe et s'accomplit encore aujourd'hui. Verset 2. Puis, j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. La ville de Jérusalem est jugée, versets 3 et 5. « Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. » La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. Cette prophétie précède la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, ce qui a marqué l'époque du temps des nations. Selon Luc, chapitre 21, verset 24, Jérusalem doit être foulée aux pieds par les nations, et ce, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Les nations marchent dans les rues de Jérusalem depuis ce jour. Jérusalem a été assiégée et capturée plus que toute autre ville. J. Vernon McGee a compilé une liste de 27 sièges de la ville au cours de l'histoire. Elle a été prise et détruite presque toutes les fois qu'elle a été assiégée. C'est pour cette raison que d'inviter les gens à aller à Jérusalem pour marcher où Jésus a marché est une publicité trompeuse. Si nous marchons dans la ville, nous ne marchons pas où Jésus a marché, car la ville est plus élevée aujourd'hui qu'elle l'était du temps de Jésus. La ville a été détruite et reconstruite avec les débris de la précédente de nombreuses fois. C'est ce qu'a fait Néhémie lorsqu'il a reconstruit la muraille. Il n'a pas fait venir de pierre, mais il a pris le matériel qu'il y avait sur place. Versets 6 à 8 d'Ésaïe 29. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des coups de tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et, comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Le triomphe final appartient à Jésus-Christ. Le dernier siège de Jérusalem sera le pire de tous. Zacharie, chapitre 14. Dieu interviendra à la dernière minute afin de sauver son peuple de l'extermination. Tous les rêves des ennemis de Dieu pour établir leur propre royaume seront anéantis, et Dieu écrasera ses ennemis. Il établira son propre royaume et il l'affermira lui-même tel qu'il l'a annoncé. Au cours de l'émission, je vous ai demandé quelle était la solution de Dieu à notre problème de péché. Le texte parlait de la pierre angulaire. J'aimerais reprendre ce thème, mais avec un vocabulaire différent. La réponse demeure cependant la même. Dieu n'a donné qu'une seule solution, son Fils Jésus-Christ. Écoutez, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Citation du livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là, assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Luc chapitre 15, verset 17 à 20. Voici un autre exemple de la simplicité du salut. Un homme paralytique, donc considéré comme un pécheur par les bien-pensants de son époque. Un homme qui ne pouvait pas se mériter le ciel par ses œuvres. Et puisqu'il ne pouvait pas travailler, qui n'avait probablement pas de fortune pour donner de l'argent au temple. Cet homme n'a fait qu'une chose. Il a placé sa confiance en Jésus et il a obtenu ce qu'il désirait, le repos de son âme, en se faisant pardonner ses péchés. De plus, en prime, il a été guéri physiquement, parce que Jésus a voulu prouver au docteur de la loi qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Notez combien accueillant est Jésus. La plupart des pasteurs que je connais n'apprécieraient pas que je perce leur toiture pour leur parler. Jésus a dit qu'il ne rejetterait pas celui qui vient à lui. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. « Mes amis, Jésus est ressuscité, et il entend toutes les prières qui lui sont adressées. Vous pouvez venir à lui par la foi, comme l'a fait ce paralytique. » Préparons-nous pour la prochaine émission, lisant le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 5, jusqu'au chapitre 31. Bonne lecture!
Merci, Régent. On a vu clairement aujourd'hui que la seule façon de grandir spirituellement, c'est l'étude de la parole de Dieu. On doit prendre le temps de s'arrêter quotidiennement pour la lire et la méditer. Il faut persévérer aussi dans cette habitude. Mes amis, êtes-vous de ceux qui se contentent d'une pensée quotidienne provenant d'un calendrier, d'un livre de méditation ou d'une pensée du jour, comme Régent l'a mentionné? On a bien vu aujourd'hui que ça ne suffit pas, que c'est comme quelqu'un qui ne prendrait qu'un verre de jus d'orange pour déjeuner. Je peux vous dire que personnellement, si je n'avais pas la Bible pour m'enseigner, pour nourrir mon âme, je n'aurais aucune direction dans ma vie, aucune assurance de faire ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon pour moi. Ça me rappelle, un an avant ma conversion, mon guitariste Robert Goulet, qui avait essayé de me partager sa joie, celle d'avoir enfin trouvé le Seigneur, m'avait conseillé de lire la Bible. Et comme je vous l'ai déjà raconté, j'ai cessé de l'engager parce que je ne voulais pas qu'il m'en parle et parce que sa vie, qui était désormais dans la lumière, était dérangeante pour moi qui vivais dans les ténèbres à cause du péché. Mais avant de me perdre de vue, Robert a réussi à semer dans mon cœur le désir de me procurer une Bible. Je suis donc allé chez Eaton, un grand magasin à Montréal à l'époque, et je me suis acheté une Bible. Je me rappelle, c'était une belle journée d'été. Je décide donc d'aller prendre un peu de soleil sur mon balcon à Outremont, et j'ouvre ma Bible toute neuve. Alors je me dis, bon, quand on lit un livre, on commence par le début. J'ouvre donc dans la Genèse où il est écrit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et voilà, mes amis, je ne comprenais absolument rien de ce que j'étais en train de lire. J'étais dans les ténèbres et je ne savais pas ce que le mot « ténèbres » signifiait seulement. J'ai donc fermé ce livre précieux et je l'ai placé avec tous mes autres livres dans ma belle bibliothèque. Mais un an plus tard, quand Dieu s'est fait connaître à moi, quand j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, quand j'ai obtenu le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en moi et le voile a été ôté devant les yeux de mon cœur. Si vous lisez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, il est écrit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mes amis, quelle joie quand je suis arrivé chez moi le jour de ma conversion. Je me suis mise à lire dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et ce qui est un peu comique, c'est que ça commençait par les mêmes deux mots que lorsque j'avais lu un an auparavant dans la Genèse, « Au commencement ». Maintenant, je connais ce verset par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et je comprenais ce que je lisais. J'étais certaine que la parole, c'était Jésus, celui en qui je venais de croire pour être pardonné et sauvé. Et au verset 12, quelle joie de lire, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mes amis, ce que je souhaite, c'est que vous ayez vous aussi cette joie, si ce n'est pas encore fait, de devenir des enfants de Dieu. Vous pouvez le faire si vous croyez en Jésus.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.